Chapitre 64. Antoine.
Ophélie ?
Consuelo a poussé le portail du Montfortin et traversé le jardin, le dos collé contre ma poitrine, mon couteau collé contre son cou. Dès que j'entre avec elle dans le hall d'entrée, je vous aperçois, ta mère et toi. Debout, pâle et consternée. Rosanna paraît flotter dans sa robe de batiste, plus transparente encore qu'il y a 6 ans. J'ai presque l'impression d'apercevoir les murs peints ou les boiseries laquées à travers son corps de verre. Tu t'es posté à côté d'elle, Antoine, pour la protéger de toute ta hauteur, de toute ta maigreur. Tu veilles sur elle comme on veille sur une sculpture de cristal. Si ta maman bascule, elle se brise.
Ophélie, je t'en supplie, fais pas de bêtises.
Tu restes étonnamment calme, Antoine. Tu t'improvises négociateur, comme dans les films de prise d'otage. Visage de marbre, voix de velours, mais cerveau qui bouillonne. Tu fixes le couteau que je continue de tenir sous la gorge de Consuelo.
Ne commets pas de gestes que tu regretteras toute ta vie.
Aussitôt, Consuelo se raidit. Sa glotte se plaque à la lame, au point que je dois desserrer mon étreinte pour ne pas entailler sa carotide. Aussitôt, elle crie.
Arrête de paniquer pour elle! Cette tarée va tous nous tuer!
Je tords un peu plus le bras de ta sœur. Elle grimace de douleur.
Je veux voir votre père. Appelez-le.
Consuelo a encore la force de cracher.
Tu crois pas que tu l'as assez emmerdé comme ça?
Il est pas là, Ophélie.
Réponds-tu doucement.
Il a reçu un appel d'urgence, il y a moins de 30 minutes.
Où il est?
Consuelo se contorsionne.
On n'en sait rien, pauvre conne! Maintenant, casse-toi!
Je ne relâche pas mon emprise. Une clé de bras. Plus Consuelo bouge, et plus elle souffre.
Elle a raison, Follette,
dis-tu avec toujours la même voix apaisée, celle d'un psy qui tente de raisonner une folle qui s'est évadée.
Va-t'en. Va-t'en tant qu'il est encore temps.
Le temps de quoi? J'ai tout mon temps, Antoine. Le temps de reprendre les explications depuis le début. La fortune des vidames, l'argent détourné, mon héritage confisqué. Tu vas enfin comprendre pourquoi tu haïssais tant ton père. Je tente d'être aussi calme que toi, de ne pas bafouiller.
Je crois au contraire que nous allons avoir une longue conversation, en attendant que Richard revienne. J'ai appelé la police, Follette.
Tu bluffes. Tu bluffes, Antoine. Je cherche à m'en assurer dans ton regard.
Je les ai appelés dès que je t'ai vu sortir ce couteau sur l'écran de la caméra. J'avais pas le choix. Toi, tu l'as. Pars avant qu'ils arrivent.
Tu ne bluffes pas. Je sais que je dois m'en aller, ne pas tout gâcher. Richard Vidame ne portera pas plainte, il est coincé. Mais si je suis prise en flagrant délit, couteau à la main, il deviendra à nouveau la victime. Consuelo sent que je cède. Antoine esquisse même un sourire. Rosanna est toujours aussi immobile, mais pour la première fois, je vois ses lèvres trembler.
S'il vous plaît, mademoiselle Crochet, partez. Laissez-nous en paix. Quoi que vous ayez appris sur mon mari, vous ne pourrez jamais rien prouver. Croyez-moi, mon mari est un homme prudent. Vous ne ferez que vous heurter à un mur. Je ne vous demande pas de lui pardonner, quoi que vous ayez à lui reprocher, seulement d'admettre qu'il a gagné.
Renoncez, Rosanna, comme tu as renoncé, comme vous avez tous renoncé, comme vous avez tous fermé les yeux pendant des années. J'éloigne pourtant mon couteau, je lâche le bras de Consuelo. Je me recule jusqu'à la porte sans vous tourner le dos. Je cherche stupidement la trace de Bolduc quelque part, sans le voir. Mon chat aussi, Vidame, me l'a volé. Tu détailles chacun de mes gestes, Antoine, de ton pitoyable regard désolé.
On ne peut rien contre lui, Ophélie.
Encore un pas, je tourne la poignée, j'ouvre la porte, quand mon téléphone sonne dans ma poche. Papa. Instinctivement, sans même réfléchir, je décroche.
Papa ?
Ce n'est pas la voix de Joe, c'est celle de Richard Vidame. Ce n'est pas un appel, mais un message enregistré sur ma boîte vocale. Instinctivement, sans même réfléchir, j'appuie sur la touche haut-parleur.
Je m'appelle Richard Vidame. Nous sommes le 18 novembre 1999 et ceci est ma confession. J'assure la formuler oralement de mon plein gré, de m'exprimer sans y être contraint. Je souhaite seulement soulager ma conscience. À qui d'autre pourrais-je avouer mes crimes sinon à Ophélie Crochet, la seule du haut de ses 7 ans à m'avoir démasqué. Tout a commencé alors que j'avais 30 ans. J'étais devenu délégué à la tutelle, responsable d'une petite trentaine de familles faisant l'objet d'une sauvegarde de justice. Maître Olsen a tenu à me rencontrer alors que je gérais depuis 1 an la curatelle renforcée de sa fille Maya et de son mari Jocelyn Crochet. Un cas classique, mari alcoolique au chômage, mère au foyer, surendettement. Maître m'a fait part de son désarroi, de sa volonté d'aider sa fille. Elle avait rompu quasiment toute relation avec elle. Elle entretenait des rapports encore plus compliqués avec son gendre, mais elle ne pouvait pas laisser sa fille et sa petite-fille mourir de faim. J'ai immédiatement noué avec Maître une relation de complicité. J'ai toujours eu ce don de rassurer. Elle me faisait confiance au point d'offrir à mes enfants, Antoine et Consuelo, le même livre qu'elle avait offert à sa petite-fille. Ce recueil des contes d'Andersen, selon elle, contenait plus d'enseignements sur la vie que la Bible, la Torah et le Coran réunis. J'ai assuré à Maître que je ferais tout ce qui était en mon pouvoir pour que son argent, 15 000 francs par mois, soit le mieux utilisé possible. Cela a duré presque 6 ans. 6 ans où je jouais l'intermédiaire entre Maître et sa fille, où j'inventais pour Maître des dettes à rembourser, des dépenses astronomiques d'alcool ou de drogue, et où je lui expliquais que sans l'argent qu'elle distribuait, j'aurais déjà tué Maya. Avec ses 15 000 francs mensuels, elle achetait la paix. C'était le prix de la vie de sa fille. Je savais que mon tour de passe-passe ne pouvait pas durer éternellement. J'ai moi-même fini par prendre les devants dès que Maître a commencé à poser davantage de questions. Donner autant à fond perdu, n'était-ce pas entretenir l'addiction de son gendre et l'oisiveté de sa fille? J'ai suggéré de diminuer les sommes, progressivement. Ainsi, Maître ne s'est jamais douté de quoi que ce soit. Je me méfiais surtout de son nouveau compagnon, Bernard, même s'il se tenait à l'écart de cette histoire, mais je ne me suis pas méfié de Maya. Je la pensais sous mon emprise, alors que petit à petit, sournoisement, elle m'échappait. Elle me dissimulait certaines dépenses, et surtout, elle avait contacté la banque sans m'en parler. L'instinct de survie, sans doute, ou celui de protéger sa fille. Le soir du 29 avril, acculée, après m'avoir supplié de lui donner de l'argent, elle s'est plongée dans les documents qu'un employé de la banque avait fini par lui envoyer, sans passer par ma tutelle, et elle a compris que quelque chose clochait. Moi aussi, j'ai aussitôt compris que cette nuit serait différente, qu'un drame couvait. En quittant l'immeuble Sorano, j'ai pris soin de prévenir la police au cas où Jo rentrerait ivre. Il pouvait se montrer violent envers sa femme, mais je savais que jamais, hélas, il ne me rendrait le service de la tuer. Maya s'est remise à fouiller dans les comptes dès que je suis sorti et qu'Ophélie s'est endormie. Heureusement, elle ne m'a pas immédiatement soupçonné, elle a seulement relevé des chiffres étranges, des sommes inattendues, des lignes de comptes inconnues. Mais le mal était fait. Elle m'a appelé plusieurs fois. Elle voulait des explications, et ces explications m'auraient accusé dès qu'un expert se serait penché sur le dossier. Si ma fraude était dévoilée, je ne perdais pas seulement mon métier, je perdais tout, ma réputation, mon ambition. J'étais alors très occupé à monter l'Astur, mon association de protection juridique. Une fois agréé par tous les services sociaux, je n'aurais plus personne au-dessus de moi. J'allais pouvoir gérer directement les comptes de centaines de bénéficiaires. Cela revenait à prendre beaucoup moins de risques et à gagner beaucoup plus. Ce soir-là, je passais la soirée avec ma maîtresse, Florence Goubert, mais je restais sur mes gardes et je disposais d'un code permettant d'écouter mes messages téléphoniques à distance. Dès le premier appel de Maya, j'ai réalisé qu'elle savait, qu'elle allait parler, que je ne pourrais plus la manipuler cette fois. Je n'avais plus le choix. Je devais la faire taire. Maya m'a rappelé un peu plus tard. Joe était rentré, sous, trop sous, pour comprendre quoi que ce soit à cette histoire rocambolesque d'argent apparu et disparu sur leur compte. Il voulait du cash, tout de suite, et la menaçait. J'ai saisi l'occasion, j'ai appelé la police. Je n'avais pas d'autre solution, ou l'on m'aurait accusé de non-assistance à personne en danger. Je ne devais rien modifier à mon attitude irréprochable de travailleur social compétent et réactif. Je savais que les policiers ne se déplaceraient pas davantage que les autres fois. Ensuite, je suis aussitôt retourné à l'immeuble Sorano. La police a su depuis le début que je les avais appelés de chez ma maîtresse à Orival, à moins de 10 minutes de voiture et pas de mon domicile de Bois-Guillaume, à l'autre bout de la ville. Je l'ai aussitôt avoué au commissaire divisionnaire Orgemont, tout en lui demandant de respecter ma vie privée, de ne pas ébruiter l'affaire et de ne pas mentionner ce détail dans le dossier. Si ma femme apprenait où j'étais, il a accepté, non seulement parce que je disposais déjà d'amis politiques influents, mais surtout parce que rien ne permettait de me soupçonner. J'étais seulement un travailleur social qui les avait prévenus qu'un drame se jouait. On n'allait pas foutre ma vie en l'air en révélant noir sur blanc que je trompais ma femme ce soir-là. Lorsque je suis arrivé près de l'immeuble Sorano, par la rocade de Saint-Étienne, à 2h15 du matin, je n'en ai pas cru mes yeux. Maya avait enjambé la passerelle et sauté sur la quatre voies. Il n'y avait personne d'autre que moi. Je n'ai pas réfléchi davantage. J'ai accéléré et je l'ai renversée. Comme une quille. C'était aussi simple que ça. Aucun témoin. Le corps de Maya, percuté par ma Volvo, s'est envolé avant de retomber. Je me suis garé un peu plus loin, à l'abri de la nuit, et j'ai vérifié que la collision n'avait pas provoqué de dégâts trop visibles. Mon renfort de pare-choc avait amorti l'impact. Je l'ai caché dans mon coffre, puis j'ai attendu quelques minutes qu'un premier témoin donne l'alerte. Dès que j'ai entendu la sirène des urgences, je suis revenu tranquillement sur la scène de crime. Tous les flics, tous les habitants du quartier Sorano descendus sur la passerelle pourraient témoigner de l'heure de mon arrivée. Personne ne m'a jamais soupçonné. Personne n'a jamais eu le moindre doute. À l'époque, la violence conjugale provoquait plus de 200 morts par an, le plus souvent dans des familles suivies par des services sociaux, et jamais il ne serait venu à l'esprit des enquêteurs qu'un fonctionnaire assermenté puisse être responsable du décès. Joe était un coupable idéal. Est-ce que je regrette aujourd'hui? Je dois sincèrement vous avouer que non. Regretter, cela signifierait regretter l'avenir que j'ai construit pour mes enfants, la propriété que je leur ai offerte. Cela signifierait regretter ma carrière, les responsabilités que j'ai assumées, les dossiers que j'ai fait avancer chaque jour, les convictions que j'ai défendues depuis toujours. J'ai sacrifié une vie, une famille, celle de Maya, mais combien d'autres depuis cette nuit du 29 avril 1983 ai-je aidé, ai-je sauvé par mes fonctions, par mes actions? Les ambitieux n'ont jamais tort. Seuls les médiocres ont des remords.
Les sirènes couvrent la voie de Richard Vidame. Trois voitures de police s'engouffrent par le portail ouvert et pénètrent dans le jardin du Montfortin, expulsant une giclée de gravier, labourant le gazon fraîchement tondu et explosant les lampes d'ornement. Six policiers surgissent, portières grandes ouvertes, pistolets au poing. Instinctivement, je lâche le couteau. Il hésite à se planter dans le parquet, puis finit par tournoyer telle une aiguille déboussolée.
Pas un geste !
Je lève mes mains, comme dans les films. Je hisse le plus haut possible mon GSM et je vous regarde, Rosanna, Consuelo et toi. J'ai gagné. La Sainte Famille est à jamais brisée. Les masques sont tombés, les rides peuvent se creuser, les cœurs peuvent se sécher. Rosanna pourra définitivement disparaître, Consuelo pourra ravaler sa fierté. Tu pourras enfin haïr ton père Antoine pour le monstre qu'il est. La pièce d'or est enfin tombée de l'autre côté. Vous allez tout perdre. Ma quête est terminée. Joe est innocent. Il n'a pas tué ma mère. Je peux désormais vivre sans ce fardeau, débarrassé du poids qui m'écrasait. Libre.
libre de vivre après toutes ces années.